Jusqu'à 22h, Asian Bubble. Entrez dans la bulle de Loli et découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission d'Asian Bubble. Cette semaine, je vais vous parler de l'artiste Kaala Tomomi. On parlera ensuite de 4 mangas des éditions Kaze. On aura la chronique du volume 2 de Rock Lee, Les péripéties d'un ninja en herbe. La présentation de Rockamelt. On aura aussi la chronique du volume 3 de Nabari et la chronique du volume 26 de Blue Exorcist. On aura ensuite un gros point sur les sorties manga de la semaine, parce que c'est bientôt Noël du coup, il y a plein de sorties. On continuera à parler culture avec les secrets du saké, et on finira l'émission avec une petite news musicale concernant le prochain concert en ligne des April 2nd qui aura lieu le 12 décembre prochain. On commence donc avec la première chanson de l'émission, c'est Glass no Koi de Shogo Hamada, et on viendra juste après pour parler de l'artiste Kaala Tomomi. Donc c'était Shogo Hamada avec la chanson Glass no Koi. On passe maintenant à la présentation de l'artiste Kaala Tomomi, de son vrai nom Shimogawara Tomomi. Donc c'est une chanteuse de pop japonaise qui est née le 14 août 1974, elle est donc âgée de 47 ans, et elle est née à Tokyo et est en activité depuis 1995. Elle est célèbre pour avoir travaillé avec Tetsuya Komuro, en plus d'avoir été sa partenaire amoureuse. Malheureusement, sa popularité a dégringolé lorsque leur relation et leur collaboration s'est interrompue en 1999, séparation qui a fragilisé également Tomomi Kahala. Alors, Tomomi Kahala débute donc sa carrière en travaillant avec Tetsuya Komuro et sort ainsi son premier single en septembre 1995. Son second single sort un mois plus tard et atteint le million d'exemplaires vendus, accélérant la popularité de la jeune chanteuse. Mais c'est son troisième single, I'm Proud, qui sera le single de Tomomi Kahala le plus vendu. Son premier album sort quant à lui en juin 1996. Mais dès 1998, son succès commence à diminuer et sa relation avec Tetsuya Komuro à battre de l'aile. Les magazines à scandale alimentent ce déclin en faisant courir des rumeurs sur l'abus de drogue des deux amants et leur relation vacillante. Résultat, son troisième album sorti en novembre 1998 se vend 10 fois moins que son premier album. La fin de sa relation avec Tetsuya Komuro, le scandale provoqué et ses tentatives de suicide lui valent une mauvaise image auprès des médias nippons et elle décide de quitter le label de Tetsuya Komuro pour reprendre sa carrière chez Warner Music Japan, en écrivant désormais elle-même ses paroles et en travaillant avec de grands producteurs internationaux. En 2004, elle signe chez Universal Music Japan et reprend de grandes chansons, principalement coréennes et japonaises, mais aussi par exemple du Michael Jackson. En 2006, elle participe à une comédie musicale et sort un photobook. Mais le 29 juin 2007, Tomomi Kahala se fait renvoyer de son agence artistique à cause de problèmes personnels répétés qui jouaient souvent sur ses apparitions professionnelles. Après ça, elle met sa carrière entre parenthèses. Le 4 novembre 2008, Tetsuya Komuro est arrêté et selon le magazine Josei Kishin, Tomomi Kahala a été choquée par cette arrestation et a été ensuite victime d'insomnie. Le 17 janvier 2009, elle est transportée à l'hôpital à cause d'une ingurgitation trop importante de tranquillisants. Mais donc depuis, elle a repris un petit peu sa carrière. Donc côté discographie, on a un total de 7 albums. Le premier, c'est Love Praise qui est sorti le 3 juin 1996. Et le dernier, c'est Dream Self Cover Best qui est sorti le 26 juin 2013. Elle a aussi fait 3 albums de reprise. Donc le premier qui est sorti le 12 mars 2014, c'est Memories Car Covers. Et le dernier, c'est Memories 3 Car Back to 1995, qui est sorti le 2 décembre 2015. Elle a aussi sorti 7 best albums. Le premier, Kahala Compilation, qui est sorti le 10 février 1999. Et le dernier, c'est All Time Selection Best, qui est sorti le 24 juin 2015. Elle a aussi sorti 30 singles, le premier Keep Yourself Alive qui est sorti le 8 septembre 1995 et le dernier c'est Kimiga Sobade qui est sorti le 11 mai 2016. Elle a aussi sorti 4 digital singles, le premier Nanbansen qui est sorti le 23 août 2014 et le dernier c'est Never Give Up qui est sorti le 24 juin 2015. Elle a également participé à 9 compilations, la première sortie donc c'est Uromok Compilation 1995-1998 qui est sorti le 17 juin 1998 et la dernière c'est Million Days Anoi no Watashito Utae mixé par DJ Kazu qui est sorti le 16 décembre 2020. Elle a également participé à une OST, l'OST de Kryon Shinchan TV Eiga Shudaika Denshu Dazo qui est sorti le 21 janvier 2009. Et pour finir, elle a interprété 2 génériques de drama. Donc c'est la même chanson qui a été réutilisée pour 2 saisons en fait. Donc c'est la chanson Hajimari no Uta ga Kikoeru pour le drama Chūzai Keiji, la saison 2 et la saison 3, qui sont donc sortis en 2015. Voilà, on va pouvoir s'écouter tout de suite 2 chansons de Kahala Tomomi. On commence avec Keep Yourself Alive et on reviendra juste après pour la chronique du volume 2 de Rock Lee, Les péripéties d'un ninja en herbe.
Découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
いつもそばで
C'était Kaala Tomomi avec la chanson Kimiga Sobade. On passe maintenant à la présentation du volume 2 de Rock Lee, les péripéties d'un ninja en herbe. Donc je rappelle que c'est un kodomo de genre action, aventure, comédie, fantasy, qui a été écrit par Taira Kenji à partir de l'œuvre originale de Masashi Kishimoto et qui a été prépublié dans le Saikyo Jump. La version japonaise est parue aux éditions Shueisha avec un total de 7 volumes qui terminent la série. Et la version française est parue aux éditions Kazé dans leur collection Kids avec également 7 tomes. Ce volume 2 est sorti le 23 janvier 2013 au prix de 6,49€. Donc le résumé de ce tome, Rock Lee, le ninja qui se passe de ninjutsu, continue son entraînement acharné en compagnie de ses coéquipiers Tenten et Neji. Mais cette fois, il est témoin d'une scène dont il ne se remet pas, Naruto a surpassé Kakashi avec un jutsu ultra puissant. Comme pour imiter ce blondinet de ninja, notre héros à la coupe au bol décide de provoquer Gai en duel pour prouver à son tour que l'élève peut dépasser le maître. Les aventures du ninja le plus poilu de Konoha continuent de plus belle. Cependant, le voici outré, Naruto, le célèbre ninja à la chevelure blonde, a apparemment dépassé son maître Kakashi. Rock Lee va donc devoir redoubler d'efforts s'il compte lui aussi dépasser Gai un jour. Et donc, Voilà, on a un tome bien drôle. Alors que nombreux doivent être les gens sceptiques sur le fait que le manga Rock Lee soit plus une vulgaire parodie qu'autre chose, ce volume-ci montre clairement que la série a vraiment pour but de nous faire rire, et pour peu que vous ayez de l'humour, ce tome atteint parfaitement son objectif. Au programme des aventures toujours plus folles les unes que les autres, qui vont emmener notre jeune ninja en herbe à affronter son maître, à réconforter Neji avec Hinata, à participer à une mission de rang S, ou encore à permuter son corps avec celui de Naruto. Dans la même lignée que le premier volume, l'auteur nous offre des gags toujours aussi tordants où notre pauvre Lee se retrouve dans des situations débiles, ne le mettant souvent pas très en valeur. Ce tome est aussi l'occasion d'amener plein de nouveaux personnages à la série, et ceux-ci vous feront sourire tout autant que Rock Lee. On rit des personnages masculins, tête de turc du manga, dont leur caractère exagéré amène l'humour, tout comme les personnages féminins, seuls êtres intelligents, qui rendent encore plus bêtes ces garçons. L'humour vient également du fait que les personnages savent qu'ils sont dans une série dérivée, et Rock Lee n'hésite d'ailleurs pas à vanter ses mérites comme quoi il a désormais lui aussi un manga à son nom, ainsi qu'un jeu vidéo et un animé. En bref, ce tome est donc loin de nous décevoir et satisfera à coup sûr les fans de la série d'origine. Les clins d'œil au manga Naruto permettent des gags tordants et la lecture est vraiment très plaisante. Ainsi, vous pouvez être sûr de passer un agréable moment devant les aventures du plus surprenant des ninjas de Konoha. Voilà, donc Rock Lee, les péripéties d'un ninja en herbe, à retrouver en 7 tomes aux éditions Kaze. On va s'écouter tout de suite le premier opening de l'anime Naruto SD Rock Lee no Seishun Full Power Ninden. C'est Give Lee Rock Lee de Hironobu Kageyama. Et on reviendra juste après pour la présentation du manga Rockamelt.
Thank you.
Donc c'était Hironobu Kageyama avec la chanson Givli Givli Rock Lee, qui est sa vie de premier opening pour l'anime Naruto SD Rock Lee no Seishun Full Power Ninden. On passe maintenant à la présentation du manga Rokamelt, du titre original Rokamelt Fiancé wa Yukyotoko. Donc c'est un shoujo de genre comédie, fantasy, romance, surnaturel, qui a été écrit par Thomas Rey et prépublié dans le Cheese. La version japonaise est parue en 2013 aux éditions Shogakukan avec un total de 4 volumes qui terminent la série. Et la version française est parue le 4 mars 2015 aux éditions Kazé avec également 4 tomes. Vous pourrez retrouver Rokamelt dans le commerce pour un prix de 6,79€. L'âge conseillé pour le lire est de 12 ans et plus et il n'existe pas d'adaptation en animé. Donc le résumé de cette série, Ichika, une lycéenne comme les autres, voit son quotidien bouleversé le jour où elle trébuche sur les corps de deux beaux garçons. D'ailleurs, ces derniers, à la peau aussi froide que la glace, cherchaient désespérément leur chemin pour rejoindre sa maison à elle. En effet, un ancien serment familial a promis la jeune fille en mariage à l'un d'eux. Et comme si la situation n'était pas assez loufoque comme ça, il se trouve que les deux jeunes hommes sont les fils de la Femme des Neiges. Désormais, Ichika devra choisir celui qui fera fondre son cœur. Voilà, donc Rokamelt a retrouvé en 4 tomes aux éditions Kazé. On va s'écouter tout de suite une autre chanson. C'est Outsider de Shoya. Et on reviendra juste après pour les sorties manga de la semaine. We'll be right back. Donc c'était Shuya avec la chanson Outsider. On passe maintenant aux sorties manga de la semaine, donc préparez-vous parce qu'il y en a un paquet. Donc on aura des sorties demain, mardi 7 décembre, chez NoFcraft, avec la sortie du volume 1 de Ao-chan Can't To Die, le volume 1 de Asobi Asobase, le volume 3 de Don't Call It Mystery, le volume 2 de Girlfriend Girlfriend, le volume 1 de Kageki Shoujo Saison 0, et le volume 3 de Miss Kobayashi's Dragon Maid. Pour mercredi 8 décembre aux éditions Kaze, on aura la sortie du volume 4 de Agent of My Heart. Ce sera le dernier tome de la série. On aura le coffret prestige de Bestiarius, le volume 43 de Haikyuu Les As du Volet, le volume 2 de Kaiju numéro 8, le volume 6 de Mashal, le volume 13 de Queen's Quality et le volume 24 de Twin Star Exorcist. Aux éditions Delcourt Tonkam, on aura la sortie du volume 7 de Harry Furuta de Zéro à Héros. On aura le volume 2 de Harry Furuta Origine, le volume 12 de Innocent Rouge qui sera le dernier tome de la série, et on aura la sortie du volume 3 du 8e fils. Aux éditions Panini, on aura la sortie du volume 4 de Awa Koi, le volume 5 de Hidden, la réédition 2021, le volume 6 de Koifuru Colorful, le volume 1 de Lone Wolf and Cub, la réédition 2021, et le volume 10 de Sido, la réédition également 2021. Aux éditions Doki Doki, on aura la sortie du volume 16 de Battle Game in 5 Seconds, le volume 4 de Cautious Hero, le volume 6 de La Gameuse et son chat, le volume 7 de Mushoku Tensei, les aventures de Roxy, le volume 5 de Sao Tome, le volume 12 de Sunken Rock, la réédition Deluxe, et le volume 8 de Talentless. Aux éditions Pika, on aura la sortie du volume 7 de Black Shadow, le volume 37 de Chiaya Furu, le volume 17 de Hidden's Zero, le volume 3 de Fragmandel, le volume 6 de I Fell in Love After School, le volume 15 de La Princesse et la Bête qui sera le dernier tome de la série. On aura le volume 8 des Brigades Immunitaires Black, le volume 2 de Rosenblood, le volume 7 de Sailor Moon, l'édition éternelle. On aura le volume 10 de Shibuya L, le volume 5 de Snow White and Alice, le volume 37 de Space Brothers, le volume 14 de Stranger Case, le volume 5 de The Fable, le volume 16 de To Your Eternity, le volume 22 de Triage X et le volume 34 de Yuna, Princesse de l'eau. Aux éditions H2T, on aura la sortie du volume 2 de Bloodline Symphony et le volume 3 de Magnum Opus. Aux éditions Mangetsu, on aura la sortie du volume 5 de Chiruran et le volume 2 de Ken, Fist of the Blue Sky, la réédition. Aux éditions Soleil, on aura le volume 2 du Chat qui rendait l'homme heureux, le volume 3 de Row Hero, le volume 24 de Super Mario Manga Adventures, le volume 6 de Teach Me More qui sera le dernier tome de la série, et on aura le volume 4 de Yo, c'est moi Wario qui sera également le dernier tome de la série. Ensuite, aux éditions Asuka, on aura la sortie du volume 16 de Nomone Okaneganai. Aux éditions Glénat, on aura les volumes 100 de One Piece. Donc vous aurez le volume 100 normal et le volume 100 en édition limitée. Et enfin, chez Nobinobi, on aura la sortie du volume 14 de Kan Takagi Mutakin, le volume 14 de Shine et le volume 2 de Yuzu, la petite vétérinaire. On passe maintenant aux sorties de jeudi 9 décembre avec aux éditions Akata le volume 4 de A Sign of Affection, le volume 2 de Goodnight World, le volume 2 du Goût des Retrouvailles, le volume 7 des Chroniques d'Asphareo et le volume 4 de Mitochon Armageddon à la recherche des boules du dragon. Aux éditions Kurokawa, on aura la sortie du volume 9 de Fullmetal Alchemist La Perfect Edition, le volume 7 de Goblin Slayer Year One, le volume 11 de Hippo de la saison 6, le volume 17 de Moi quand je me réincarne en Slim, le volume 13 de My Home Hero, le volume 3 de Pokémon Épée et Bouclier, le volume 14 de Silver Wolf Blood Bone et le volume 4 de The Raidon King. Et pour finir les sorties de jeudi, on aura aux éditions Kiun le coffret de l'appel de Cthulhu avec l'appel de Cthulhu et celui qui hantait les ténèbres. Les dernières sorties de la semaine, ça sera pour vendredi 10 décembre avec aux éditions Naban le volume 4 de 17 ans, une chronique du mal qui sera le dernier tome de la série. Aux éditions Isan Manga, on aura la réédition de Cobra's Space Pirates avec le volume 11 qui sortira. Et enfin, on aura aux éditions Nazca le volume 9 de Soul Land, donc qui paraîtra pour finir ses sorties de la semaine. On va pouvoir tout de suite écouter une autre chanson, c'est Never Change de Shun, en featuring avec Liu Liu, qui a servi de 30e ending pour l'anime Naruto Shippuden. Et on reviendra juste après pour parler culture avec les secrets du saké. Donc c'était Shun avec la chanson Never Change en featuring avec Liu Liu qui a servi de 30e ending pour l'anime Naruto Shippuden. On va maintenant passer à la partie culture, on va continuer à parler des secrets du saké grâce au livre de Siméon Mollard qui est paru aux éditions Isekinicho. Donc on va continuer à parler donc des différences entre saké moderne ou saké traditionnel. Donc on va parler du Kimoto. Dans les temps anciens, le polissage du riz n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Donc pour la préparation du shubo, on procédait à un bâtonnage du riz immergé, donc pour faciliter la fermentation du koji. Cette méthode, appelée Kimoto, favorise l'émergence des bactéries lactiques qui, en sécrétant des acides lactiques, favoriseront l'évolution des levures naturelles. Cette façon de faire prend environ 4 semaines, donc un saké Kimoto est, en théorie, un saké brassé grâce à des levures indigènes dans la plus pure des traditions. Au final, son caractère sera plus affirmé avec une pointe d'acidité reconnaissable. De nos jours, la méthode Kimoto est réputée auprès du public de connaisseurs. Certains brasseurs en profitent et produisent donc des sakés Kimoto pour l'image et la réputation, sans forcément en respecter la méthode. Ils ajoutent également des acides lactiques et des levures afin de limiter le risque. Seuls les plus compétents parviennent à respecter le processus entier du Kimoto. Et on a donc le Yamaai, donc avec la technologie, le polissage du riz est devenu plus efficace. Pendant la période Meiji, de 1868 à 1912, on parvint même à retirer jusqu'à 30% de l'écorce. Il restait alors 70% du grain. Dès lors, le bâtonnage devint inutile, les bactéries lactiques se développant dans le shubo, tout comme pour le Kimoto. Le Yamaai, de son vrai nom Yamaoroshi Aishimoto, voilà, dure environ 2 jours de moins que le Kimoto. Le résultat final est identique en théorie. Certains brasseurs prétendent que brasser avec la méthode Kimoto n'a plus de sens puisque le résultat est le même, mais les érudictibles brasseurs qui respectent encore le processus entier du Kimoto sont persuadés que le futur leur donnera raison en prouvant que le saké Kimoto est en réalité bien différent du Yamaai. Beaucoup de Yamaai sont toutefois élaborés avec des levures sélectionnées, ce qui limite la prise de risque. Voilà, donc du coup la semaine prochaine, on continuera à parler des secrets du saké. On parlera du saké chaud ou du saké froid, lequel il faut choisir. Voilà, donc vous en saurez plus la semaine prochaine. En attendant, on va pouvoir s'écouter une autre chanson. On va s'écouter le 6e ending de l'anime Rurouni Kenshin, c'est Siam Shade, avec la chanson Ichisan no Jonjo no Kanjo. Et on reviendra juste après pour la chronique du volume 3 de Nabari. Donc c'était Siam Shade avec la chanson Ichisan no Chonjo no Kanjo qui a servi de sixième ending pour l'anime Rurouni Kenshin. On passe maintenant à la chronique du volume 3 de Nabari. Donc je rappelle que c'est un shonen de genre fantastique qui a été écrit par Kamatani Yuki et pré-publié dans le G-Fantasy. La version japonaise est parue aux éditions Square Enix avec un total de 14 volumes qui terminent la série et la version française est parue aux éditions Asuka et Kaze avec également 14 tomes. Ce volume 3 est sorti le 26 mars 2009 au prix de 7,69€. Donc le résumé du tome. Pour récupérer le rouleau du clan Togakushi, les ninjas du village de Banten acceptent de commettre un assassinat pour le compte de leur chef. Mais rien n'est moins simple que d'accomplir une mission quand elle s'oppose à vos principes et que tout le monde, parmi vos alliés comme parmi vos ennemis, protège des intérêts personnels parfaitement contradictoires. C'est au milieu d'un tel désordre que le professeur Tobari Komohira entraîne sa petite équipe au risque d'avoir quelques surprises. Donc afin de récupérer la technique interdite des Togakushi, les ninjas de Banten acceptent une mission qui va à l'encontre de leurs idéaux, assassiner un scientifique lors d'un congrès. Mais les Kairoshu sont aussi de la partie dans le clan opposé, les motivations des uns s'entremêlent et Miharu et Yoite poursuivent leur alliance dans le plus grand secret, quelle sera l'issue de cette mission. Nabari semble avoir trouvé sa voie. Après deux volumes d'introduction présentant les personnages et les enjeux de l'histoire, voici qu'un véritable premier arc scénaristique est lancé. Nos héros partent donc à la recherche des différents rouleaux des techniques interdites afin de trouver le moyen d'extraire le Shinra Bansho de Miharu et une dangereuse mission va leur permettre d'acquérir l'un de ces fameux parchemins. Le tome entier est ainsi consacré à cet arc qui se conclura sans doute dans le tome 4 et une fois n'est pas coutume, nous retrouvons donc les ninjas de Banten d'un côté et les Kairoshu en guise d'ennemis. Cependant, beaucoup d'éléments permettent d'éviter les répétitions du volume précédent et créent un doute tant chez le lecteur que les personnages. Les ambitions de certains personnages étant dévoilées, le manichéisme de la série est désormais rompu. Finalement, les ambitions des Kairoshu sont-elles si néfastes ? Du côté de Banten, tous sont-ils dépourvus de tout péché ? Dans chacun des camps, qui est réellement mauvais ? Beaucoup de questionnements concernant les personnages sont soulevés ici, rendant chaque camp bien plus complexe, permettant donc de revenir sur le passé de certains protagonistes et confirmer que l'intrigue risque de s'approfondir dans les tomes à venir. Voici donc pour le fond de ce tome, particulièrement bien mené. Dans la forme, c'est tout aussi bon. La mission menée par Komohira et ses élèves se révèle particulièrement intéressante et riche en rebondissements. Cette phase de la série s'oriente davantage action, même si de nombreuses phases de dialogue sont présentes. Le plus intéressant s'avère être la relation entre Miharu et Yoite, désormais alliés, conspirant secrètement contre leurs clans respectifs pour des objectifs qui, sans être nuisibles, s'avèrent bien différents. Il est difficile de parler de véritables antagonistes pour cet arc, les Kairoshu sont de la partie et occupent davantage une place de rivaux, et les hommes à abattre semblent être les incarnations de la pourriture, permettant de fournir en fin de tome une réflexion rapide et convenue sur la nature humaine, mais qui a le mérite d'accorder au tome une dimension dramatique. D'ailleurs, celle-ci tranche avec le reste du volume, car si celui-ci fait dans le sérieux, Yuki Kamatani s'accorde toujours à planter dans ses pages quelques traits d'humour qui sont les bienvenus. Néanmoins, étant donné le gain en sérieux démontré par de nombreux éléments de ce volume, on peut penser que la suite va s'intensifier de plus belle et gagner en complexité. Est-il encore utile de préciser que Nabari est toujours très éloigné de Naruto, bien qu'il ait pour thème le monde ninja ? Le récit devient plus obscur mais montre que l'auteur sait où elle va, et si cet arc peut laisser croire qu'une linéarité s'installe, l'alliance entre Miharu et Yoite pourrait bien apporter des turbulences à l'avenir. Quoi qu'il en soit, Nabari s'avère de plus en plus passionnant. Voilà, donc Nabari a retrouvé aux éditions Kaze avec 14 tomes. On va s'écouter tout de suite le premier ending de l'anime Nabari no O. C'est Ikari interprété par Elisa et on viendra juste après pour la chronique du volume 26 de Blue Exorcist.
りぼっちな痛み、どうしてなの、大事なものなくしてばかりで、うれしきる雨、また悲しみを歌う。
Donc c'était Elisa avec la chanson Ikari qui a servi de premier ending pour l'animé Nabari no O. On passe maintenant à la chronique du volume 26 de Blue Exorcist. Je rappelle que c'est un shonen de genre action, aventure, comédie, drame, fantastique, vie scolaire, surnaturel, qui a été écrit par Kato Kazue, traduit par Sylvain Chollet et prépublié dans le Jump SQ. La version japonaise est parue aux éditions Shueisha avec un total de 27 volumes, la série étant en attente. Et la version française est parue aux éditions Kazé dans leur collection Shonen Up, avec également 27 tomes. Ce volume 26 est sorti le 28 avril 2021 au prix de 7,15€. Donc le résumé de ce tome, après avoir fait la lumière sur le passé, Rin décide de porter secours à son frère et se rend directement auprès de lui grâce à la clé de dissimulation. Yukio révèle alors quelles étaient ses véritables intentions en rejoignant Illuminati. Les jumeaux sur lesquels pèse un lourd destin engagent leur première sérieuse confrontation. Donc après avoir découvert le secret de ses origines, Rin est bien décidé à porter secours à son frère, et ce, quoi qu'il en coûte. Il se rend auprès de lui grâce à la clé de dissimulation, mais Yukio refuse de le suivre. Maintenant que Satan prend peu à peu possession de son corps, il souhaite sa propre mort. Cachant ses intentions à son frère, il va s'opposer à lui en espérant secrètement que Rin parvienne à le tuer. Le long et passionnant flashback qui s'est avéré aussi surprenant que touchant est désormais terminé. On revient donc au présent, et on retrouve les deux frères dans la situation des plus complexes dans laquelle on les avait laissés. Et même si on peut avoir le sentiment que leur séparation remonte à loin, du fait de l'attente entre chaque tome, sans compter la longue parenthèse du flashback, l'auteur rappelle avec humour par le biais de Yukio que dans la série, seulement 5 jours se sont passés. Donc comme on pouvait s'y attendre, les retrouvailles sont bien loin d'être chaleureuses, la séparation s'était mal passée et Sirin a découvert le secret de leur naissance. Du côté de Yukio, rien n'a changé dans ses plans. S'il veut donner l'impression d'avoir changé de camp, c'est avant tout dans l'espoir d'éliminer Satan et en même temps que lui. Et ce qui apparaît inévitable depuis le tout premier tome, le face-à-face des deux frères que tout oppose, va enfin avoir lieu. Sirin possède le pouvoir des flammes bleues, une puissance hors norme et des capacités surhumaines. Yukio n'est pas en reste, il n'est plus le petit frère fragile de faible constitution, il ne l'a même jamais été. Sans parler du pouvoir octroyé par Satan lui-même, il a également l'adresse et la science du combat pour lui. Ainsi, le grand moment que beaucoup attendaient arrivant enfin, bien qu'il soit perverti par la possession de Yukio et cette volonté d'en finir avec la vie. Pour autant, on ressent toute la puissance du symbole que Kazue Kato a pris le temps de peaufiner, volume après volume, chapitre après chapitre, patiemment sur plusieurs années. Malheureusement, la mise en scène de l'affrontement est parfois un peu confuse et ce dernier ne tient pas toutes ses promesses dans le sens où les deux adversaires, frères ennemis, ne jettent pas toutes leurs forces dans la bataille, donc d'un autre côté, on ne pouvait pas s'attendre au contraire, il aurait fallu que Rin ait une véritable volonté de tuer son frère. Mais étrangement, c'est sur la fin, lorsqu'ils semblent tous les deux dépossédés de leur pouvoir, qu'on a le sentiment qu'un autre combat peut être plus intense encore et sur le point de débuter. Donc bien qu'il se passe d'autres événements autour d'eux, seul ce face-à-face retient vraiment notre attention, ce qui était sans doute le but de l'auteur. L'intégralité de cet opus nous absorbe et on ne peut qu'attendre le prochain avec une grande impatience, curieux de savoir ce que Kazue Kato prévoit pour nos deux frères. Un volume palpitant, point d'orgue attendu depuis longtemps, mais il est clair que les personnages, comme l'auteur, en gardent sous le pied. Voilà, donc je rappelle que vous pourrez retrouver Blue Exorcist aux éditions Kazé avec pour le moment 27 tomes. On va s'écouter tout de suite la chanson In My World de Ryukyez is Punked, qui a servi de deuxième opening pour l'animé Aono Exorcist. Et on viendra juste après pour finir l'émission avec une news musicale.
In my heart is 拭いされない過去の悲しみ偽り心にもないプラスで放ち手を伸ばした My life 切り離した額縁の中眺めるように存在証明一切も寝かろじて保ち分自身避けて通れない道はいつからかこんなだったそして誰もいなくなったなんて臭くらいやりきれなくて Cry for cry I'm in my world 響く愛の歌歪んだ世界曲がった願い崩れ去っていく理想と明日 I can stand hold だに退屈だった Goodbye precious life The cloud in my heart is 晴れ渡り道に光を差した Let's fight 恐れはない諸刃の剣振りかざした My life 一人きりじゃない仲間の声導かれる方に存在証明一切肯定解き放った自分自身避けて通れない道はいつだってこんなだった迷いは消えてなくなった運命なんて臭くらいがむしゃらになって Try for fly I'm not afraid to die.
Donc c'était Rookies is Punked avec la chanson In My World qui a servi de deuxième opening pour l'animé Aono Exorcist. On va maintenant finir l'émission avec une news musicale. Donc à l'occasion de la sortie de leur nouvel album, le groupe sud-coréen April Second tiendra un concert en ligne le 12 décembre prochain à 9h du matin, heure française. Donc si ce concert vous intéresse, voici quelques informations essentielles. Donc le billet est à se procurer auprès de Danshu TV pour un prix de 22 000 won, donc ça fait environ 16,52€. Vous pourrez régler par PayPal ou carte bancaire. Le concert durera 1h40 environ et débutera donc à 9h, heure de Paris, le 12 décembre prochain. Le replay sera également disponible pendant 48 heures après le live. Donc si ça vous intéresse, pour réserver votre billet, il y a une petite procédure à suivre. Donc il faut que vous vous inscrivez et vous connectez sur le site de Danshu TV. Ensuite, vous choisissez un concert en cliquant sur le menu performance et en sélectionnant donc la performance que vous souhaitez regarder. Pour réserver votre billet, il faudra appuyer sur l'image en haut ou sur le bouton du milieu sur la page des performances. Ensuite, vous n'avez plus qu'à choisir votre type de billet et appuyer sur le bouton « Acheter un billet ». Ensuite, on vous demandera de choisir un mode de paiement et de procéder au paiement. Après tout ça, vous n'avez plus qu'à regarder le concert le jour venu, donc le 12 décembre à 9h, en entrant dans la salle de spectacle. Pour cela, vous devrez cliquer sur l'image de la salle de spectacle ou sur la fiche du spectacle en haut de la page du spectacle. Et en entrant dans la salle de concert, vous pourrez discuter à tout moment après l'achat. Voilà, du coup, si ça vous intéresse mais que vous ne connaissez pas encore April Second, je vous propose d'écouter un petit aperçu de ce qu'ils peuvent faire avec la chanson The Hill of Yearning. Donc on va s'écouter ça pour terminer l'émission. Je rappelle que vous pourrez me retrouver vendredi prochain de 18h30 à 19h pour l'émission Cordialement Geek. Sinon, en attendant, ça sera sur Facebook que vous pourrez me retrouver donc pour cette émission Cordialement Geek et également pour l'émission Asian Bubble, que vous retrouverez lundi prochain de 21h à 22h pour une nouvelle émission. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et à bientôt.
그리워.